Bienvenue avec le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Rendez-vous signé Michael Ponge. Bonjour.
Bonjour Gilles, merci. Il est 7h10 à Edmonton, au Canada. Edmonton, premier arrêt du pape François arrivé hier dans le pays pour présenter ses excuses aux communautés autochtones dont des milliers d'enfants sont morts dans des pensionnats religieux. L'Artibonite, enjeu des gangs, pourquoi les affrontements entre bandes armées redoublent dans ce département au nord d'Haïti, on verra cela. Et puis dans le journal de la première, avec vous Tiziana Maron, l'appel lancé par le CHU de Guadeloupe.
Oui, un appel à renfort motivé par les conséquences de la crise Covid et par l'absentéisme, les explications à la une.
Du journal de la première, donc, dans une quinzaine de minutes. Bienvenue à tous. Des chants autochtones traditionnels pour accueillir François. Le pape est arrivé hier soir à Edmonton, en Alberta, à l'ouest du Canada. Première étape donc de sa tournée qui le conduira jusqu'à vendredi au Québec et dans le Nunavut. Un pèlerinage pénitentiel pour réitérer les excuses de l'Église catholique pour les 150 000 enfants autochtones enrôlés de force dans des pensionnats religieux au 19e et 20e siècle. Bonjour Marie Normand.
Bonjour.
La presse s'arrête sur cette visite historique à plus d'un titre.
Et si cette visite a une odeur caractéristique, Michael, ce pourrait être celle de l'asphalte fraîchement posé sur les routes que le pape empruntera, ironise le Toronto Star. Aujourd'hui, ces excuses du pape sont jugées bienvenue, bien que tardive et peut-être pas universellement acceptée. Le journal interroge par exemple Gary Gagnon, l'un des 32 délégués autochtones qui était à Rome en avril, lorsque le pape François a présenté ses premières excuses. Il soutient que cette expérience l'a changé. D'autres disent en revanche ne rien attendre de ce déplacement, comme cet ancien chef algonquin que j'ai pu joindre à Québec. Il s'appelle Jimmy Papati, il a passé son enfance dans ces pensionnats.
J'ai jamais souhaité que le pape vienne s'excuser. Moi, ça donne rien. Le pape n'est pas, c'est pas lui qui est responsable. Il est le chef de l'Église, mais il n'est pas responsable. Ce qu'on attend du pape, c'est il faut que le Vatican, les cardinaux mettent en place leur politique concernant les abus sexuels commis par leurs soldats, moi je veux dire. Là. Il faut qu'ils soient destitués de leur rôle de prêtre, qu'ils soient amenés devant les cours pénales pour répondre à leurs gestes envers les Premières Nations. Il faut que ces gens-là soient carrément destitués de l'Église, mais aussi envoyés dans des centres de thérapie, puis qu'aille en prison, c'est fou, là.
Est-ce que vous allez tout de même suivre ce déplacement du pape? Est-ce que vous y serez attentif?
Non, pas en tout. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Je me dis tout le temps que sa visite est un exercice de relations publiques pour calmer l'opinion publique aussi au pays. Je trouve ça très malsain de la part du pape de venir au Canada. Moi, là, vénérer le pape, c'est tout simplement vénérer quelqu'un qui un symbole qui a commis des génocides spirituels à travers le monde. Aujourd'hui, la moindre des choses qui pourrait se faire, qui pourrait très bien faire, le pape, c'est retirer tous ses effectifs, puis démanteler les églises dans les communautés, là, puis les presbytères, puis on réinstalle la spiritualité autochtone.
On le rappelle à nos auditeurs, vous êtes vous-même un survivant de ces pensionnats. Vous aviez 5 ans, hein, c'est ça, quand vous avez été forcé de quitter votre famille. Vous saviez à l'époque où vous alliez?
Non, on ne savait pas. On était tous remplis dans l'autobus, les fenêtres fermées. On s'en allait vers l'inconnu. Là. On ne savait pas ce qu'on allait. Puis quand on est rentré dans la grande maison, là, on nous a séparés, on nous a enlevé nos vêtements, coupé les cheveux, lavé au javel, parce qu'on nous disait qu'on était très sales. Puis alors que moi, la veille, ma grand-mère m'avait lavé.
Votre vie, elle bascule à ce moment-là?
Oui, elle a basculé. Puis j'ai 58 ans. Le fait d'avoir connu des abus sexuels de la part d'un prêtre au pensionnat, ces traumatismes-là ont hanté ma vie, puis j'ai fini par faire du mal à des gens. J'ai fini par reproduire le même pattern. Aujourd'hui, quand tu regardes le niveau de violence, d'agression sexuelle puis d'abus qui se passe dans nos communautés, on peut pointer facilement le pensionnat parce que c'est les conséquences transgénérationnelles. 38 ans plus tard, je comprends les effets, les impacts dans ma vie. Même si le pape s'excuse, ça ne va pas changer ma vie, ça.
La personne qui vous a abusé sexuellement à l'époque, elle a été poursuivie en justice, cette personne?
Présentement, Frère Michaud, ils l'ont amené à la retraite des Oblats dans le Richelieu, ici. Tous les prêtres qui sont accusés, là, la cour, le système de justice les libère pour les faire sentencés à domicile à la retraite des Oblats. Ces gens-là ne vont pas en prison. C'est ça qui est aberrant. Ils n'ont pas les mêmes traitements qu'un citoyen ordinaire.
L'établissement dans lequel vous avez été pensionnaire, hein, Saint-Marc-de-Figri, au Québec, il existe encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est devenu?
Non. Non, il n'existe pas. Il n'y a plus rien à part les dalles de ciment. Il y a eu une espèce de mémorial qui a été installé là par la Première Nation d'Abitibi-Uni pour faire rappeler aux Canadiens que c'est là que l'endroit où la vie de jeunes garçons a été transformée, changée. Puis il y a des enfants qui sont portonnés. Il y a des enfants qui sont morts puis qui ont été enterrés. Tu sais, moi, en tout cas, je me souviens d'une femme, une jeune fille qui était venue au pensionnat, très jeune. Puis nous autres, il y avait quoi, 14-15 ans dans cet âge-là? À un moment donné, elle s'est mise à prendre du poids puis manger beaucoup. On l'appelait la grosse puis on se moquait d'elle. On était des enfants. Mais nous autres, on ne savait pas qu'elle avait été violée puis qu'elle était enceinte. Puis un jour, elle a perdu ses os dans la salle à manger. Ils l'ont emmenée, les soeurs, les bonnes soeurs l'ont emmenée. On ne l'a jamais revue. Je ne l'ai jamais revue.
Qu'est-ce que vous demandez, non pas à l'Église catholique aujourd'hui, mais au gouvernement fédéral canadien?
De renvoyer le pape. On n'a pas besoin du pape ici. Le Canada, il fait peut-être son gros possible, mais c'est passé. Très loin encore de nous redonner les outils qu'on a besoin d'avoir, le financement pour pouvoir mettre pleinement notre programme de guérison communautaire, guérison nationale. Les financements viennent au coûte.
Voilà, Jimmy Papati à votre micro, Marie, ce lundi. Le pape visite un ancien pensionnat. C'est là qu'il pourrait donc prononcer une demande de pardon officielle. On suivra ça évidemment dans notre rendez-vous.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Le balai des Canadairs dans le ciel ocre de Californie aux États-Unis. Marie, un feu géant brûle la forêt depuis vendredi et menace le parc naturel de Yosemite.
C'est le plus gros feu de l'année, comme l'explique le San Francisco Chronicle. Oak Fire, c'est son nom, se propage rapidement, alimenté par une sécheresse extrême, une abondance d'arbres morts et un temps chaud et sec persistant. Certaines forêts pourraient disparaître, prévient le Los Angeles Times aujourd'hui. La couverture forestière de la Californie a en effet diminué de 6,7% depuis 1985 et les chercheurs craignent, Michael, que les arbres perdus ne repoussent jamais. Alors que le changement climatique ouvre la voie, on le voit, à des incendies plus fréquents, plus dévastateurs, High Cutting News note qu'il est très coûteux pour les résidents de protéger leur maison, 27 000 $ en moyenne pour un nouveau toit résistant aux incendies. Alors pour ce magazine du Colorado, aider les propriétaires à s'équiper est devenu aujourd'hui une question d'équité climatique.
Les États-Unis qui espéraient sans doute atteindre ces migrants haïtiens dont l'embarcation de fortune a coulé hier, Marie, 17 sont morts.
Le bateau a chaviré dans les eaux des Bahamas en pleine nuit, explique le Nouvelliste. Le quotidien Miami Herald publie une photo d'ailleurs des survivants, des hommes entassés sur la coque d'un bateau chaviré. En tout, 15 femmes sont mortes, un homme et un enfant. Une dizaine de personnes sont aussi portées disparues. Depuis octobre 2021, note le Nouvelliste, plus de 6 100 Haïtiens ont été arrêtés en mer alors qu'ils tentaient de rejoindre les États-Unis. C'est le plus grand exode en 2 décennies. Le Premier ministre des Bahamas a déclaré hier que son pays avait très bien réussi au cours des derniers mois, avec l'aide des gardes-côtes cubains et américains, à les empêcher d'accoster. Le Monde suggère que nous absorbions tous ceux qui quittent Haïti, a-t-il lancé hier, propos rapporté par Eyewitness News. Les Bahamas ne peuvent pas, selon lui, ouvrir leurs frontières à cette immigration en raison de leurs propres ressources limitées.
Des Haïtiens fuyant l'insécurité et la violence des gangs. Si on vous parle beaucoup de la terreur que ceux-ci font régner à Port-au-Prince, dernièrement, c'est dans le département de l'Artibonite que ces gangs font parler d'eux dans le nord du pays. Là aussi, il se déroule une guerre entre bandes rivales pour le contrôle du territoire. Des affrontements violents qui ont fait la semaine dernière encore une 20aine de morts. Pour en comprendre les raisons, j'ai demandé à l'agronome et professeur des universités, Jean-André Victor, de nous expliquer pourquoi l'Artibonite était un enjeu de premier plan.
L'Artibonite, c'est 90% de la production hydroélectrique du pays. L'Artibonite, c'est également 50% de la superficie totale des terres irriguées dans ce pays. Donc, pour cette raison, c'est le grenier de la République. Les bandits l'ont compris tout de suite. Ils l'ont compris pour deux raisons fondamentales. D'abord, c'est le seul endroit du pays où on peut rançonner les paysans. Ils sont concentrés, ils sont en masse et ils ont un certain pouvoir d'achat à cause d'une culture très rentable qui est le riz. Ensuite, la Thibonite sert de base arrière pour les bandits. Quand ils ont des problèmes dans leur fief à Port-au-Prince, autour de Port-au-Prince, ils se replient justement sur la Thibonite, pour la raison que je viens de citer, parce que c'est là qu'ils vont trouver des aliments, c'est là qu'ils puissent rançonner la population, et c'est là également qu'il y a plusieurs petits foyers de bandits qui s'entretuent des fois, qui rentrent en conflit pour contrôler telle ou telle partie du territoire. Et finalement, il y a possibilité pour eux de continuer à rançonner la population parce que là, on est en plein dans le milieu rural. La police n'est pas très présente en milieu rural. Et le fait que Petite Rivière de la Thibonite, qui est le plus grand village de la vallée de la Thibonite, le fait que ce village soit le centre actuellement de toutes les tensions, de tous les conflits, il y a des morts d'hommes la semaine dernière, peut-être jusqu'à présent aujourd'hui, c'est là que se trouve également le barrage de canaux, le barrage de dérivation pour l'irrigation.
Ce barrage de canaux, hein, je vous coupe Jean-André Victor, dont les employés ont été justement délogés temporairement au début du mois de juillet. Des bandits armés, semble-t-il, ont voulu en prendre le contrôle. Pourquoi ? Parce que c'est potentiellement là la clé du contrôle de l'ensemble du département de l'Artibonite.
C'est ça. Mais il semble que ce soit des riverains qui avaient occupé le barrage et pas les gangs à proprement parler. Et les riverains avaient une revendication devant l'ODVA, l'organisme qui s'occupe du développement de la vallée. La revendication, c'était pour réparer des tronçons de route vicinales. Donc, comme ceci n'a pas été fait, donc c'était une pression. Mais maintenant, moi, ce que j'ai dit, c'est encore plus grave. Si c'était des bandits, c'est question de rapport de force. Et à ce moment-là, où on est capable de les déloger, où on n'en est pas capable. Maintenant, si ce sont des habitants qui ont fait ça, ça pose un problème de valeur maintenant. Parce qu'il n'y a plus de respect pour la gestion du système et les gens font flèche de tout bois. À ce moment-là, ça met en péril une trentaine de milliers d'hectares de terre sous irrigation. Ça met en péril l'approvisionnement en eau de tout le bétail qu'il y a dans la zone et ça crée une incertitude maintenant sur la régularité de fonctionnement du système d'irrigation.
Et ça, c'est le fait seulement d'agriculteurs, selon vous, ou bien des gangs ont tout de même joué un rôle dans cette prise de contrôle ?
Bon, moi, je pense qu'il y a une combinaison des deux. Pour quelle raison ? Parce que c'est un coup de force. Pour faire ce coup de force et déloger les employés qui sont responsables du barrage, même si les gens disent que ce n'est pas vrai, hein, il faut avoir un minimum de force de dissuasion pour déloger les responsables de contrôle du barrage.
Le barrage de canaux en jeu, donc, pour le contrôle économique de l'Artibonite, vous nous l'avez expliqué. Au-delà de cet aspect, justement, économique, l'activité des gangs dans ce département a aussi plus largement un impact sur tout le territoire haïtien et sur l'environnement en tant que tel.
C'est évident. Et je disais que l'Artibonite, c'est le grenier de la République d'Haïti. Donc, à ce moment-là, si les paysans ne sont pas capables de récolter ce qu'ils ont semé, ça pose des problèmes extraordinaires parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus aucune confiance dans le système de production et vous allez voir de plus en plus des gens qui abandonnent le secteur, soit pour faire autre chose, soit pour émigrer. Ensuite, on remarque que les espaces de souveraineté qui sont gagnés par les bandits, ça augmente de jour en jour. La vallée de la Thibonite, c'est un tout. Donc, quand à l'intérieur de cet espace qui fait 45 000 hectares, vous avez des bandits qui bloquent les routes, qui rançonnent la population. À ce moment-là, la production devient incertaine et les gens s'adonnent de moins en moins aux travaux agricoles. Ensuite, comme la circulation est restreinte à partir de ce moment-là, ils contrôlent les routes également. Donc, les engrais, les intrants agricoles ne peuvent pas arriver correctement. Et les produits récoltés ne peuvent pas sortir non plus. Et comme ça concerne 1 million d'individus directement, et peut-être indirectement toute la population haïtienne, ça veut dire que ça devient un problème politique et particulièrement préoccupant.
Particulièrement préoccupant. Merci Jean-André Victor, agro-juriste et professeur notamment à l'Université d'Haïti. Et on quitte du coup Haïti pour le nord de l'Argentine. Défilé sonore d'une centaine de centaines de motards. C'était hier mardi dans la province de Salta.
Il réclame justice après la mort d'Alejandro Benitez, un enseignant tout juste retraité, parti voyager en moto en Bolivie il y a 2 semaines. Et sur la route entre Santa Cruz et Cochabamba, cet Argentin est renversé par un camion. Et selon ceux qui l'accompagnaient, il a été ensuite privé de soins médicaux pendant plusieurs heures parce qu'il n'avait pas de pesos boliviens, raconte La Nación. Dans El Tribuno, les associations de motards appellent au boycott de la Bolivie jusqu'à ce que les circonstances de sa mort soient clarifiées. L'un des manifestants demande ici aux autorités boliviennes de mieux traiter les voyageurs argentins et puis de respecter enfin l'accord de réciprocité signé entre les deux pays en 2019 sur la gratuité des soins en cas d'urgence. Le journal bolivien Paris Naciété note que les hôpitaux publics du nord de l'Argentine fournissent bien ces soins gratuits aux Boliviens, mais que pour l'instant, l'inverse n'est pas vrai.
Marie Normand, merci beaucoup.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Tiziana Maron, bonjour.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe lance un appel à renfort.
Oui, le manque de personnel et les conséquences de l'épidémie de Covid-19 ont motivé cet appel pour une prise en charge correcte des patients. Bruno Milsan, directeur des ressources humaines du CHU de Guadeloupe, joint par Laurence Baptiste Salomon de Guadeloupe La Première.
Difficultés liées à la crise sanitaire qui se pérennise et qui impacte nos professionnels, qui nous oblige à mettre les moyens nécessaires pour répondre à d'une part à l'afflux aux urgences et potentiellement à des hospitalisations liées à la Covid plus importantes que d'habitude. Cet appel à renfort est motivé aussi par un taux d'absentéisme qui reste très prégnant dans notre établissement, comme malheureusement dans beaucoup d'établissements de métropole. Et comme les études récentes le montrent, particulièrement pour les CHU, il y a d'une part une montée de l'absentéisme sur certains métiers, comme le métier d'infirmier, et aussi des grosses difficultés de recrutement. Et malheureusement, notre établissement n'échappe pas à cette double effet. Fait négatif.
Direction la Guyane pour le tout premier mini-festival LGBT+, organisé samedi à Cayenne. Objectif, faire accepter les communautés homosexuelles et les rendre visibles. Sophie, l'une des organisatrices au micro de Pierre Tréfaux de Guyane La Première.
Est-ce que je dois me cacher ou pas ? Non, je suis amoureuse de quelqu'un. C'est une femme, d'accord. Mais c'est pas pour autant que je vais aller dans la rue et dire non, on va pas se tenir la main, non, on va pas se faire de gestes tendres parce que les hétérosexuels ne s'en cachent pas, donc pourquoi moi je m'en cacherais ? Parce que si on vit avec le regard des autres, on ne vit plus. Faire ce genre d'événement en Guyane, c'est aussi la communauté guyanaise a du mal à se montrer. Et du coup, nous on est là aussi pour montrer qu'on est comme tout le monde.
Et on termine en Martinique avec une fête particulière, celle des marins-pêcheurs qui s'est tenue hier au Diamant. Bénédiction des embarcations, peau de l'amitié, une cinquantaine de professionnels étaient réunis. Quelques réactions au micro, Martinique La Première de Xavier Chevalier.
J'ai commencé ça avec mon père et puis ça m'a motivé. En plus, il y avait du poisson. C'était le plaisir de voir le poisson.
Je suis très passionné par rapport à mes parents-pêcheurs. Je l'ai continué. Jusqu'à ce jour que j'ai eu ma retraite. C'est les aventures de la mer qu'on a eues, les aventures de tempêtes, de cyclones. C'est quelque chose qui était dur pour nous, mais il fallait l'affronter pour gagner sa vie. Des jours où c'est un peu plus difficile, en retard, tout le monde nous attendait sur le bord de la plage, en croyant qu'on était disparu, mais on revient à chaque fois.
Et c'est le mot de la fin de cette édition. Bonne journée.
Merci beaucoup à vous, Tiziana Maron et aux équipes de La Première qui refermait ce rendez-vous d'Haïti et les Amériques réalisé aujourd'hui par Claude Battista. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. En attendant, vous le savez, vous pouvez nous réécouter sur toutes les plateformes de podcast et bien sûr sur RFI Pure Radio. L'actualité à commenter aussi sur nos réseaux sociaux, notamment sur Twitter @RFIAmérique.